بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on revient après l'absence, longue absence pour qui cherche Kitab al-Tawhid. On s'est arrêté au 13e, on n'avait pas fait le 13e chapitre, on avait fait les 12 premiers chapitres, donc on espère qu'on va l'achever cette année, Inch'Allah. Et là, comme on a fait Tarawih, le cours, on va prendre dans l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Al-Mulakhas, le résumé, qui s'appelle le Al-Mulakhas, ça veut dire le résumé. Comme ça, on va pas être trop long, Inch'Allah. Donc, on fait le 13e chapitre, il dit Babun min ash-shirk an yastaghitha bi ghayrillahi aw yad'a ghayrahu. Donc, chapitre, il fait partie du polythéisme, que la personne cherche l'aide. En fait, yastaghitha, ça ne veut pas dire l'aide, ça veut dire il demande de. C'est comme une dua. Mais en cas de difficulté, ou alors qu'il invoque autre qu'Allah, ça c'est le titre du chapitre. Donc ça va parler de istiratha, on va expliquer ce que c'est, et de dua, comme quoi le fait de les vouer à autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Wa qawlillahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Fa yaqulu Sheikh Al-Fawzan rahimahullah مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Donc Cheikh dit pourquoi il a mis ce chapitre ici, c'est pour montrer une des catégories de shirk qui annule le tawhid, qui est le fait de faire istighatha par autre qu'Allah ou d'invoquer autre qu'Allah. Donc il dit, donc tout ce qui est les définis, les traductions, enfin, c'est-à-dire lui il dit chaque mot, ça je vais le faire vite. Je ne vais pas lire exactement ce qu'il écrit. Il dit que l'istirafa, c'est talabul rawth. Al-rawth, wa huwa izalatu shidda. Ash-shidda, c'est-à-dire quand la personne elle est dans une situation difficile et il demande de sortir de cette situation difficile. Izalatu shidda, qu'Allah lui enlève cette shidda, c'est-à-dire cette difficulté, cette situation difficile, c'est ça l'istirafa. Donc en fait, l'istirafa, c'est une des catégories de dua. Dua, c'est l'invocation au sens général. Et l'istirafa, c'est une des catégories de dua, en fait. Donc, quand il a dit ici, en fait, dans le titre, il fait partie du shirk, l'istirafa par autre qu'Allah et la dua par autre qu'Allah, ou d'autre qu'Allah, en fait, il a cité quelque chose de particulier, et ensuite, il a cité quelque chose de général. Parce que quand il dit la dua d'autre qu'Allah, l'istirafa, c'est déjà compris dedans. Parce que l'istirafa, donc je le répète, pour qu'on comprenne, c'est une catégorie des dua. On peut demander dua pour le bien, dua pour la guérison, mais l'istirafa c'est izalatu shidda, talabu et izalatu shidda, c'est de demander de sortir de la difficulté. Donc à propos du verset qui dit, donc traduction approximative, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne t'est pas utile et qui ne te nuit pas, et si tu le faisais, tu serais certes parmi les injustes. Et en fait ici, wala tad'u, c'est-à-dire c'est le verbe qui vient du mot dua, qu'on traduit habituellement par invoquer. Et dua, on traduit par l'invocation. Mais quand on parle du Coran ou des hadiths, on ne peut pas toujours traduire par invocation. Parce que dua, donc ça, vous le trouverez dans les shuruh comme Fath al-Majid ou Taysir al-Aziz al-Hamid. Je voulais prendre, mais comme le cours, on va essayer de faire rapide, je vais juste vous mentionner ce qu'il a cité là-dedans. C'est que dua, elle est de deux sortes. Et dua, il peut avoir deux significations. Dua ou l'ibada et dua ou l'mas'ala. Dua al-ibada, ça veut dire que des fois, le mot dua, c'est un synonyme de l'ibada. Donc le verbe da'a, qu'on traduit d'habitude par invoquer, ça va être un synonyme du verbe adorer. Donc, Ad-Dua, il peut vouloir dire l'ibad. Et Ad-Dua, il peut vouloir dire aussi Dua al-Mas'ala. C'est ce qui est plus connu d'habitude dans le langage. C'est que Dua, ça veut dire l'invocation. Donc, Ad-Dua, ça peut vouloir dire l'invocation. Et ça peut aussi vouloir dire l'adoration. Comme quand Allah dit dans le Coran, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Ça, c'est général. Ça veut pas dire, et les mosquées sont à Allah, donc n'invoquer personne avec Allah. En fait, ça, on peut aussi traduire par n'adorer personne avec Allah. Donc, il y a de nombreuses preuves dans les versets du Coran. Donc là, il dit, Cheikh, à propos de ce verset, Al-ma'na al-ijmali ou l'il-aya, yanha Allah nabiyahu an yad'ua ahadan min sa'iri makhlouqin al-ajizina an isal al-nafi wa daf'i al-dar. C'est-à-dire, dans ce verset, Allah, il interdit à son messager d'invoquer les autres créatures qui sont incapables de ramener du bien ou de repousser le mal. ثُمَّ يُبَيِّنُ لَهُ حُكْمَهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الدَّعَى غَيْرَ اللَّهِ بِأَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ensuite, il montre le jugement du prophète si on supposait qu'il aurait invoqué autre qu'Allah. C'est qu'il aurait été parmi les mushrikins, c'est-à-dire les polythéistes. وَهَذَا النَّهْيُ عَامٌ لِجَمِيعِ أُمَّةٍ. Et bien sûr, cette interdiction, elle englobe toute la communauté du prophète. Qu'on ne vienne pas dire, ouais, mais ça c'est interdit pour le prophète, donc pour nous c'est pas interdit. Parce que l'ordre qui est adressé au prophète dans le Coran ou dans la Sunna, c'est un ordre à toute sa communauté, sauf si une preuve elle vient montrer que c'était un ordre qui lui était spécifique. Ensuite il dit, Ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on profite de ce verset ? Anna du'a ghayrillahi shirkun akbar. C'est le fait d'invoquer autre qu'Allah est du grand polythéisme. أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين فكيف بغيري. On comprend aussi du verset que la meilleure des personnes, c'est-à-dire le prophète, s'il avait invoqué ou adoré autre qu'Allah, il serait devenu parmi les injustes. Les injustes, c'est-à-dire, ici, dans le Coran, ça veut dire les polythéistes. Alors qu'en est-il d'autre que lui ? Si ça c'est vrai pour le prophète qui est la meilleure des créatures, alors autre que lui, dont nous faisons partie, c'est encore pire. Et pourquoi dhalimin, ça veut dire al-mushrikin? Parce qu'Allah dit dans le Coran, inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est une grande injustice. Donc quand vous lisez dhalimin ou dhalimun dans le Coran, ou dhulm, ça peut vouloir dire le polythéisme, c'est-à-dire la mécréance. Bayanu ajzi alihati al-mushrikin wa butlanu ibadatiha. Aussi, ce verset nous montre l'incapacité des divinités qu'adorent les polythéistes. Et que donc leur adoration elle est vaine, elle est nulle. Wa qawlihi, donc ça c'est dans le kitab al-tawhid, wa qawlihi wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Donc dans ce verset Allah dit, si Allah te touche par un mal, nul ne peut l'enlever sauf lui, et s'il te veut du bien, alors personne ne peut repousser sa grâce. Il touche qui il veut par ce bien, parmi ses serviteurs, et c'est lui le Al-Rafur, celui qui pardonne, Al-Rahim, celui qui fait miséricorde. Donc c'est quoi pour rappeler la différence entre Al-Rahman et Al-Rahim, pour voir s'il y a des restes l'année dernière. On n'a pas de toc là. Hein? C'est quoi la différence entre Al-Rahman et Al-Rahim? On va déjà expliquer ça. Al-Rahman يدل على صفة الرحمة والرحيم يدل على الفعل على إيصال الرحمة إلى الخلق. C'est-à-dire الرحمن, le mot الرحمن, quand on dit en arabe, il en comprend qu'Allah il a cet attribut qui est الرحمة. Et le mot الرحيم en arabe, il en comprend qu'Allah fait miséricorde. Différent. Ouais, n'am. حتى الرحمن صفة مبالغة. يعني الرحيم يدل على الفعل والرحمن يدل على الصفة. Certains ils ont dit Ar-Rahman c'est fil dunya, Ar-Rahim fil akhira, etc. Et Mouhim, nous on a vu l'opinion la plus probante, etc. qu'on avait retenu, qu'on voulait retenir en tout cas. Ar-Rahman yadullu ala sifa, et Ar-Rahim yadullu ala al-fi'a. Voilà, c'est ça qu'on voulait retenir, inshallah. Donc il dit Al-ma'na al-ijmali ou lil-aya, donc la signification globale du verset. يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه. Donc Allah nous informe dans ce verset que c'est lui seul qui a la possession, c'est-à-dire la possession absolue, la domination et qui donne et qui retient et qui nuit et qui fait arriver le mal, al-dar, en dehors de autre que lui. Ça veut dire autre que lui ne possède rien de tout ça, sauf si, pas, si c'est par sa permission. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. Donc c'est ce qui implique, si Allah c'est lui seul qui possède tout ça de façon absolue, ça implique que ce soit lui qu'on invoque et que ce soit lui qu'on adore seul, en dehors d'eux, des autres parmi ces créatures qui ne possèdent rien ni pour eux-mêmes ni pour les autres. Ça veut dire les créatures, elles ne possèdent aucun bien ni mal pour elles-mêmes et encore moins pour les autres. Alors pourquoi on va les adorer? On ne va pas adorer seulement celui qui seul possède le bien et le mal pour les autres. Quelqu'un il va me dire, bah oui, mais si je te frappe, voilà, je t'ai fait un mal et je le possède ça, et si je le veux maintenant je te le fais. Tu le fais certes, mais par la permission d'Allah. Si Allah il veut t'en empêcher, tu ne le feras pas. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abbas, وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ اِجْتَمَعُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, si un peuple, un groupe de gens voulait te faire du mal, il pourrait te faire du mal que par une chose qu'Allah t'a destinée ou a destinée contre toi. وَإِنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Et s'il voulait te faire un bien, il ne te ferait que ce qu'Allah a destiné pour toi. Donc tous les actes des êtres humains, ils sont pas, l'être humain ne détient pas le bien et le mal de façon indépendante, en dehors d'Allah. Le seul qui détient le bien et le mal de cette façon, c'est Allah Ta'ala. Et donc, c'est lui seul qui doit être adoré uniquement. Ensuite, il dit, Munasabatul ayati lil bab, donc pourquoi il a mis ce verset dans ce chapitre, Anna fiha bayana istihqaqillahi lil ibadati wa bid-du'a wa nahwihi. Donc c'est parce que ce verset nous montre que c'est Allah qui mérite d'être adoré par l'invocation et autre que l'invocation. Et que le fait d'invoquer autre que lui est du polythéisme, parce que autre que lui ne peut ni nuire ni apporter du mal. ما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. Ça c'est intéressant. Il dit qu'est-ce qu'on profite du verset? Le fait qu'Allah est le seul à posséder l'ألوهية, ça veut dire le droit à l'adoration, puisque c'est lui seul qui a الربوبية, les attributs de الربوبية qui sont, si on les résume, c'est quoi? Les attributs de الربوبية, il y en a trois. Trois grands, trois, tous les attributs de الربوبية, ils reviennent à trois. Al-Mulk, Yuhi wa Yumit, ça rentre dans un plus général. Al-Khalq et Tadbir, voilà, Alhamdulillah. C'est-à-dire la possession, la création et la gérance. Comme c'est Allah qui est unique dans ces trois attributs-là, et bien c'est lui uniquement qui mérite d'être adoré. Et quand vous regardez le Coran, à chaque fois, le Coran yastadillu bi tawhid al-rububiyya ala tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire le Coran, il argumente par le tawhid dans al-rububiyya, dans la création, etc., pour prouver le droit unique à l'adoration. Le verset le plus simple, c'est-à-dire au début du Coran, Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, et ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux. Et après il continue, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, celui qui a fait pour vous de la terre un lit, wassama abinaa, et du ciel une construction, ou anzala mina sama imaan fa akhraja bihi mina thamarati rizqan lakum, et qui a fait descendre du ciel de l'eau, et qui a fait sortir de la terre par cette eau une subsistance pour vous. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc ne mettez pas des égaux à Allah alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Tout ce qui vient de précéder, alors que vous savez que c'est lui qui vous a créé, ainsi que ceux d'avant, et que c'est lui qui a fait descendre la pluie, parce que les Arabes de l'époque du prophète, que le prophète a déclaré mécréant et a combattu, tout ça il le savait et il le déclarait. Il croyait qu'Allah c'est lui qui a créé seul, il croyait que c'est Allah seul qui fait descendre la pluie, qui fait vivre, qui fait mourir, etc. Mais leur problème il n'était pas donc dans le fait de croire qu'il y a un autre créateur. Leur problème il était de croire que leur divinité ont droit à l'adoration. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dis, ça c'est un verset. Allah dit au prophète, dis-leur qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui gère l'ordre. Donc là, on a tous les trucs de Rububiyya, la possession, la gérance, etc. Ils diront, c'est-à-dire Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Sufyan, avant qu'ils se convertissent, etc., ils diront Allah. Donc ils savaient qu'Allah, c'est lui qui crée, c'est lui qui gère, etc. Mais ils adoraient autre qu'Allah. Pourquoi ? Pour que ce soit des intermédiaires entre eux et Allah. Exactement ce que font maintenant des gens qui s'apparentent à l'islam, mais leur islam, c'est juste un islam sur la carte d'identité. Parce que, en vérité, leur religion, elle est semblable à celle de Quraysh. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nie pas et qui ne ramène pas de mal. Et ils disent, voilà nos intercesseurs en dehors d'Allah. Donc celui maintenant qui te dit, quand je vais à la tombe de Sidi Foulen, moi je ne dis pas que c'est un créateur, ou je sais qu'Allah c'est le seul au ciel. Encore si il dit qu'Allah est au-dessus du ciel. Il dit, je sais qu'Allah c'est le seul Dieu qui nous a créés, qui nous fera revivre, qui nous fera mourir, etc. Mais simplement, là je l'adore, parce que c'est un homme pieux, il va. Donc ça c'est la même religion que pour lui. Le frère il veut parler d'un verset, bon c'est pas dans le sujet mais c'est pas grave, frère, mais c'est intéressant alhamdoulilah. Le frère il veut parler d'un sujet, il peut avoir un problème dans certains, il lisent un verset qui, où Allah il dit fatabarakallahu ahsanul khaliqin, qu'Allah soit élevé, le meilleur des créateurs. Alors là on a les créateurs au pluriel, mais en fait les ulama ils disent en vérité il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème dans ce verset, parce que si l'être humain il crée une voiture à propos de la ferraille, on peut dire khalaqa. En langue arabe, ça existe, on peut. Simplement, l'être humain, quand il crée à partir d'une matière. Il ne fait que regrouper et transformer. Et Allah, yatafarrad bil khalqi, yani bi ijadi shay'i min al-adam. Allah, il est le seul créateur dans le sens, il est le seul à créer une chose, à la faire exister à partir du néant. Mais le khalq, qad yutlaqu ala ghayri dhalik. Le khalq, il peut s'appliquer à autre chose, comme le fait de transformer la matière et de la regrouper et d'en faire un autre produit, comme on fait par exemple avec les voitures, etc. Donc ça c'est ce qu'il a dit le frère, retrouve dans la parole des ulama, ils ont expliqué ça. Au cas où quelqu'un, il irait le meilleur des créateurs et il dirait comment ça? Il y a plusieurs créateurs avec Allah? Non. Parce que c'est-à-dire, et ça, ça fait partie de Raddu al-Mutashabih ila al-Muhkam. Le musulman, quand il y a un verset qu'il ne comprend pas, il renvoie ça, donc qui est pour lui mutashabih, il ne comprend pas le sens, c'est ambigu, il le renvoie au muhkam. Et le muhkam du Coran, muhkam ça veut dire ce qui est clair. Et les versets clairs dans le Coran qui nous disent qu'Allah c'est le seul créateur, ils sont très 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 nombreux. Donc toujours, le musulman, ça doit être ça, sa voix, c'est de renvoyer les versets qui ne lui sont pas clairs aux versets qui sont clairs. Par exemple, bon, la parenthèse aussi, des fois, il y a des personnes qui disent pourquoi Allah il dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, nous avons créé. Ou alors, il y en a beaucoup, ça c'est connu, il suffit de lire un livre sur la langue arabe et c'est expliqué. C'est parce qu'en arabe, une personne, elle peut dire nous. Et d'ailleurs, même en français, ça existe. Et en arabe, c'est surtout pour quelqu'un comme un roi, par exemple, il peut dire nous. Parce que comme il a une grande place, c'est comme si c'était plusieurs personnes dans la position. Donc Allah, c'est lui le plus grand, donc il dit nous. Mais ça veut pas dire du pluriel. Comment ? C'est-à-dire les noms de la majesté. Ah, le nous, ouais, voilà, ça, c'est le nous de la majesté. Et ça s'appelle Damirul Azama. C'est-à-dire, c'est un pronom qu'on va utiliser à ce moment-là, pas pour Al-Jam, pas pour le pluriel, mais pour l'Azama, c'est-à-dire comme il a dit le frère, la majesté, la grandeur. C'est comme si on voudrait comparer, en français aussi ça se fait avec celui à qui on parle, le mukhatab. On lui dit vous, pourtant on parle à une personne. Donc si en français ça existe, en arabe aussi ça peut exister, mais c'est avec nous. Et quoique même en français, nous, on peut dire nous. Un président, il peut s'adresser au peuple en disant nous décidons que, etc. Donc il n'y a pas de ishkal en vérité, c'est de la langue, c'est tout. Et le Coran, il est descendu en langue arabe. Bon, et c'est un chapitre. Chapitre fini, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc il dit. Ensuite, بطلان دعاء غير الله لعجزها عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. Donc là, toujours la même chose. Le verset nous montre qu'il est nul, bâtil, d'invoquer ou d'adorer autre qu'Allah, puisque cet autre, il ne peut pas te nuire ni t'être utile. إثبات المشيئة لله سبحانه وإثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. Aussi, donc ça c'est en dehors du sujet de Kitab Tawhid. De Tawhid et Uluhiyya plutôt, c'est que le verset nous montre qu'Allah, parmi ses attributs, Al-Mashi'a. Al-Mashi'a, c'est-à-dire la volonté, ou alors Al-Maghfira, le pardon, et Ar-Rahma, qu'on ne doit pas interpréter par autre chose. Comme il y en a, il dit Ar-Rahma, Allah, il est la yusaf bi Ar-Rahma, wa innama ma'ana Ar-Rahma, annahu yudkhilu ibadahu al-Jannah, wallahu laysa lahu Ar-Rahma. Donc déjà, il dit non, il faut. On ne peut pas dire qu'Allah est Ar-Rahman, si on dit qu'il est Ar-Rahman, on a fait ressembler Allah à sa créature. Alors que le minhaj de Al-Sunna, ce n'est pas ça. C'est de croire au nom et aux attributs d'Allah, mais de dire qu'on y croit, mais ils ne sont pas comme les attributs des êtres humains et de ses créatures, tout simplement. Alaykum salam. Wa qawlihi wa btaghu inda Allahi rizqa wa abudunhu wa shkuru lahu ilayhi turja'u. Donc le verset, et cherchez auprès d'Allah la subsistance et adorez-le. Et soyez lui reconnaissant, et vers lui vous retournerez. Donc il dit à propos de la signification du verset, يَأْمُرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِطَلَبِ الرِّزْقِ مِنْهُ وَحْدَهُ لَا مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ. Donc il dit, Allah dans ce verset, il nous ordonne de chercher le risque. Le risque, c'est tout ce qu'on va posséder, la subsistance, auprès de lui seulement, et non pas auprès des statues et des idoles. وَإِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ وَالْاِعْتِرَافِ بِنِعَمِهِ الَّتِي أَسْدَاهَا عَلَى عِبَادِهِ. وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته. Donc il dit, et aussi ça nous montre qu'il faut l'adorer seulement, donc vouer notre adoration à lui seul, et être reconnaissant envers ses bienfaits qu'il nous a donnés, qu'il a donnés à ses serviteurs, et d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance, et de délaisser et de s'éloigner des péchés. D'où il a tiré toutes ces significations, rien que du mot washkuru lahu. Parce que les ulama disent ashukr, comment tu vas faire ashukr, c'est-à-dire être reconnaissant par rapport à tel ou tel bienfait qu'Allah t'a donné, c'est en utilisant ce bienfait dans l'obéissance d'Allah. Alors que si tu l'utilises dans le péché, là tu auras ôté. Tu auras été parmi les ingrats et non pas parmi les reconnaissants. Donc c'est juste du mot dans le verset Washkuru lahu. Soyez lui reconnaissant, c'est-à-dire reconnaissez ses bienfaits et utilisez-les dans son obéissance. ثم يخبروا أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. Ensuite il nous informe qu'on va revenir vers lui et que chacun va être rétribué pour ce qu'il a fait, et donc l'être humain il doit faire ses comptes. Donc il dit ما يستفاد من الآية وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. Donc on comprend de ce verset, donc ça se répète un petit peu, qu'il faut obligatoirement adorer Allah et l'invoquer seul et chercher la subsistance auprès de lui. وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة, qu'il faut absolument adorer Allah seul dans toutes les catégories d'adoration. وجوب شكر الله على نعمه, qu'il est obligatoire d'être reconnaissant vers Allah pour ses bienfaits. Et إثبات البعث والجزاء, donc ça c'est l'affirmation de la résurrection et de la rétribution. أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. Aussi on comprend de ce verset qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de chercher son risque, sa subsistance, et l'iktisab. L'iktisab c'est quoi? C'est travailler, Hein, par exemple, comme beaucoup d'entre vous, faire des études pour arriver à une profession, etc. Il n'y a pas de contradiction entre ça et entre l'adoration d'Allah. Et que l'islam, dedans, il y a le bien d'ici-bas et de l'au-delà. C'est-à-dire l'islam, il ne nous a pas dit « Prie Allah et laisse tomber le travail » et il ne nous a pas non plus dit « Travail et dis pas, Inch'Allah, tout vient de ta volonté, tout vient de tes efforts. » L'islam, il nous a dit de chercher auprès d'Allah la subsistance, c'est-à-dire la demander de lui, et en même temps faire les causes qui nous mènent à ça, comme le travail, les études, etc. etc. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Dans ce verset, Allah dit, et qui est plus égaré, et quand vous voyez dans un verset qui est plus égaré, ça veut dire que ce qui suit, c'est de la mécréance. Parce que le plus grand égarement, c'est quoi? C'est la mécréance. Donc s'il n'y a pas plus égaré que celui qui fait telle ou telle chose, c'est-à-dire que la chose qui est citée fait partie des catégories de mécréance. Waman ardallu, donc qui est plus égaré que celui qui invoque ou qui adore. Donc le doua, on a dit, on peut le traduire par invoquer ou adorer. En dehors d'Allah, ce qui ne lui répond pas jusqu'au jour du jugement. Et ils sont insouciants, c'est-à-dire ils ne font pas attention à leur doua, donc à leur doua, c'est-à-dire à leur invocation ou à leur adoration. C'est-à-dire les idoles que ces gens adorent, elles ne font même pas attention à leur adoration. Bien sûr, puisque la plupart du temps, ils adorent des morts. Et lorsque les gens seront regroupés, ils seront pour eux des ennemis. C'est-à-dire ces idoles qu'ils adoraient, des fois des idoles, des fois des hommes pieux, des fois des anges, ils seront des ennemis contre eux. Et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire ces gens-là qui ont été adorés en dehors d'Allah, au jour du jugement, ils ne reconnaîtront pas l'adoration de ceux qui les ont adorés et ils seront des ennemis pour eux et ils renieront leur adoration. Donc je vais quand même si j'ai déjà expliqué, mais je vais quand même lire vite fait, il dit dans la signification du verset أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن دعا غير الله من المخلوقين ممن لا يقدر على إجابة دعوته في الدنيا ولا يشعر بدعاء من دعاه وإذا قال. Donc ça suffit, il dit Allah il nous explique ici que il n'y a pas plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah parmi les créatures qui ne peuvent pas répondre à ceux qui les adorent ici-bas, et en plus elles ne se rendent même pas compte que les gens les adorent, puisque pour la plupart du temps c'est des gens morts. وإذا قامت القيامة وجمع الناس عاد من دعاه وتبرأ منه. Et quand ce sera le jour du jugement, elles seront des ennemis pour ceux qui les ont adorés et elles les désavoueront. Et à leur tête, qui ça? À la tête de tout ça, c'est qui va faire ça? Dans le plus grand en route, c'est Iblis. Et Allah, il l'a cité dans le Coran. وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعد إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. Donc Iblis, il va se lever au jour du jugement, il va dire à ses suiveurs, donc dans le verset Allah il l'a cité, je m'écrois, je renie l'association dont j'ai été le sujet auparavant, c'est-à-dire le fait que vous m'ayez associé à Allah auparavant. Et on avait dit, ça on a déjà expliqué, parce que toute personne qui adore autre qu'Allah, en vérité, elle adore Shaytan, puisqu'elle a obéi à ce Shaytan qui lui a ordonné l'adoration d'Allah. Et parce que souvent dans les idoles, comme on l'avait vu dans les idoles des Arabes, il y avait des djinns qui tournaient autour de ces idoles, etc., et qui pouvaient faire ce que les gens pensaient des miracles, etc. Donc il dit, فَلَيْسَ هَذَا الْمُشْرِكُ إِلَّا فِي نَكْتٍ فِي الدَّارِ. Donc ce mushrik, celui qui est associé à autre qu'Allah, il sera dans le désarroi, dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà. لَا يَحْصُلُ عَلَى إِجَابَةٍ فِي الدُّنْيَا وَتُشْحَدُ عِبَادَتُهُ فِي الْآخِرَةِ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا. Ni il va récolter ce qu'il demandait ici-bas, et en plus, au jour du jugement, son adoration, elle sera reniée. Alors que c'est à ce moment-là qu'il en aurait le plus besoin. ما يستفاد من الآية أن الدعاء عبادة le fait que le dua c'est une adoration, comme il a été cité dans le hadith de l'Aman ibn Bashir, al-du'a'u huwa al-ibada. L'adoration, c'est la vocation, c'est l'adoration. فَمَنْ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ. Donc celui qui invoque autre qu'Allah est tombé dans le grand polythéisme. بَيَانُ شَقَاوَةِ مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah nous montre dans ce verset le malheur et la tristesse de celui qui a associé Allah ici-bas et dans le-delà. أَنَّ الشِّرْكَ هُوَ أَعْظَمُ الضَّلَالِ. Que le polythéisme et l'association à Allah, c'est le plus grand des égarements. أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. Que الأوثان, donc الأوثان, on avait dit, c'est quoi الصنم, c'est quoi الوثن, الصنم, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah avec une forme de créature, comme la statue de Bouddha, ou comme, je sais pas, tout ce qui est en forme d'animal ou d'être humain. Et الوثن, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais qui n'a pas, ça englobe l'asnam et autres, comme les tombes, les mausolées qu'on adore, les arbres qu'on adore, les rochers qu'on adore, etc. Tout ça, c'est l'Awthan. Donc, c'est que l'Awthan, elles n'entendent pas celles qui les invoquent. Et elles ne lui répondent pas, contrairement à ce que s'imaginent les polythéistes. Anna ibadat Allahi wahdahu fiha khayru dunya wal akhirah. On comprend aussi du verset que l'adoration d'Allah seul, dedans il y a le bien ici-bas et dans l'au-delà, puisque c'est l'opposé du shirk. Donc peut-être quelqu'un il se dit ça, on l'a déjà entendu 100 fois dans les Durus Akami, mais c'est comme ça qu'il a le Tawhid. C'est-à-dire parce que c'est un livre qui est destiné à bien expliquer le Tawhid. Donc des fois, tu penses que c'est de la répétition, mais en fait, il n'y a pas de répétition. Parce que le chapitre d'avant, il montrait que c'était interdit l'isti'adha. Et l'isti'adha, c'est une catégorie précise. C'est demander la protection. Maintenant, il parle de l'istirafa et de l'du'a. C'est une autre genre. Après, dans le chapitre d'après, il va montrer l'incapacité, ça veut dire là aussi il l'a montré, mais après ça va être un chapitre spécialement sur ça pour montrer l'incapacité de ceux qu'on adore en dehors d'Allah, pour en déduire que si elles sont incapables, elles ne méritent pas l'adoration, alors que là il montre simplement que c'est interdit par exemple. Donc les chapitres ils ont des nuances les uns vers les autres, c'est pour que celui qui sort de Kitab Tawhid